Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Dans l'édition Santé pour tous de ce jour, nous allons parler de l'accès aux soins de santé orthopédique et traumatologique dans notre région. En posture d'invité pour en parler, nous recevrons le docteur Philippe Micot, chirurgien traumatologue et orthopédiste, par ailleurs médecin-chef de l'hôpital Baptiste de Mesquine, anciennement appelé hôpital de Semao. Avec lui, nous allons passer en revue cette branche particulière de la médecine, mais ô combien importante pour les problèmes articulaires, musculaires et osseux. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré Volcan FM. La chirurgie orthopédique et traumatologique a pour but de diagnostiquer et traiter l'ensemble des pathologies de l'appareil locomoteur. Cet appareil locomoteur est composé de l'ensemble du squelette osseux, notamment les membres supérieurs, les membres inférieurs, le bassin, le tronc et la colonne vertébrale. L'appareil locomoteur comprend aussi l'ensemble du tissu musculo-tendineux et l'ensemble des articulations et leurs composantes que sont les cartilages, les ligaments, le labrum, les ménisques, etc. Cette spécialité chirurgicale est très vaste et exige de ses chirurgiens une hyper-spécialisation. Par ailleurs, il existe au sein de cette spécialité chirurgicale deux versants d'activité, le versant dit orthopédique, qui s'adresse à l'ensemble des pathologies dégénératives chroniques, malformatives, congénitales, tumorales ou séquelles de traumatismes anciens et responsables de troubles fonctionnels tels l'arthrose, les instabilités ligamentaires, les cales vicieux, les compressions nerveuses, les hernies discales et les rideurs. Le but de cette chirurgie est de corriger ces séquelles fonctionnelles en reconstruisant le plus précisément possible les entités organiques lésées pour leur redonner leur fonction perdue, mais qui, en cas de lésion irréparable et trop évoluée, nécessite parfois un remplacement prothétique. L'autre versant de cette spécialité dite traumatologie s'adresse à l'ensemble des lésions aiguës causées par un traumatisme ou un accident, notamment une fracture, une entorse, une luxation, une rupture ligamentaire ou une lésion musculaire. Le but chirurgical de la traumatologie est de réparer la lésion le plus précisément possible pour prévenir des séquelles fonctionnelles plus ou moins graves, douloureuses et handicapantes. Il faut préciser, et cela est particulièrement important, qu'avec l'âge, l'appareil locomoteur devient de plus en plus fragile, ouvrant inéluctablement la porte à toutes sortes de pathologies dégénératives telles que l'ostéoporose et l'arthrose, dont les personnes âgées sont le plus souvent victimes. Les pathologies de l'appareil moteur liées au vieillissement constituent donc un vrai problème de santé publique qui interpelle bien entendu les patients, le corps médical, mais aussi et surtout les pouvoirs publics qui se doivent d'assurer à l'ensemble de la population des soins non seulement de qualité mais à un coût accessible. Dans notre pays en effet, la chirurgie orthopédique et traumatologique n'est pas encore suffisamment vulgarisée, surtout ici dans notre région où la médecine traditionnelle est encore largement préférée par les populations. À cela s'ajoute bien sûr le coût élevé de la prise en charge des différentes pathologies rentrant dans le domaine de cette branche de la médecine. Pourtant, ici à l'extrême nord, cette spécialité permet de résoudre plusieurs problèmes de santé de gravité variante. Après un accident bénin survenu dans les bois, Madame Oumarou a vu sa blessure se compliquer, l'obligeant à recourir au service d'un chirurgien orthopédiste, dont l'intervention a abouti à l'amputation d'un doigt de sa main gauche pour éviter une infection aux conséquences plus graves.
Pana Oumarou, ça peut être gêné. Quand voilà, quand nous devons être finis, on doye wala gala mi defa ci le galman sor kiyama jure wa don bo buti wadi de de nyale didi buti gal jungo nano min jami docteur fere min ngara do wara hopital semawdo min kami wadi banitan be bi yam wordi mi nasi blok be cheki mi wari nyale didi ba don be bi se beta kolel man betai takam allah alam jottakam ko Allah wadi fu boddum mi seya ke be dama.
À côté de ces interventions chirurgicales qu'on pourrait qualifier de légères, il y a des patients souffrant de problèmes plus délicats pour lesquels l'orthopédie et la traumatologie offrent des solutions satisfaisantes. Grâce au récit de son fils, Mme Gataba Roseline partage avec nous son expérience des soins chirurgicaux, orthopédiques et traumatologiques reçus suite à une fracture du fémur.
Gataba Roseline, je pense que je suis considéré comme oui.
Bon. Kosde man do yewi o dun yaha bawo man ni o doyi tan o yewi bawo man min yari ha yimbe mo ini fu yahay wadi dubi be libinai kosde man yamdi tay ngam man on min wadi ha do bi wari mi wadi radio mi seki kosde man juta kam don be dama en lare kam don yaha sadda do habde yago e kon nawri ngam man bo min lare kam usti don yaha boddo banani on je kumi fami haton kam be seki be muyini boddum fu yahi halu petal miskinado odon sei masinma ngaman jutta do ma wino to banne kam mi futi mami hutsa sare kam kosde kam don be dama jur hauti odo yaha boddum kodume fo do do wara sadda yamni tugo ka do wara o hokki mo sawariji fere be kitin go yaadu man be kujeji yaadu man fu o hokki do yaha boddum. Merci.
Fidèle auditeur de Radio Serré, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Si vous prenez le train en marche, sachez que nous parlons aujourd'hui de l'accès aux soins de santé orthopédiques et traumatologiques dans notre région. Pour approfondir justement le sujet, nous accueillons notre invité, le docteur Philippe Miko, chirurgien traumatologue orthopédiste, par ailleurs médecin-chef de l'hôpital Baptiste de Mesquine. Docteur Philippe Miko, bienvenue sur les antennes de Radio Serré.
Oui, merci.
Alors docteur, déjà, c'est quoi l'orthopédie?
L'orthopédie, c'est cette partie de la médecine qui s'occupe de redresser ce qui est déformé de naissance ou bien par suite de traumatisme ou de maladie.
Là, on est dans le milieu du domaine des os, c'est bien cela?
On peut appeler la chirurgie traumato-orthopédique la chirurgie osseuse.
Alors, de par votre expérience ici dans notre région, les problèmes orthopédiques, est-ce qu'ils sont assez récurrents? Quel est en moyenne le nombre de patients que vous recevez par mois pour ces problèmes?
Les problèmes orthopédiques sont récurrents chez les jeunes comme chez les adultes. Nous voyons une bonne cinquantaine de patients chaque mois avec ces problèmes, mais le nombre que je viens de vous donner est très en dessous de la réalité des faits.
Alors, parmi ces patients que vous recevez, est-ce qu'on peut avoir le pourcentage d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées?
Comme je vous ai dit, les patients que nous recevons sont très peu nombreux par rapport à ceux qui auraient effectivement besoin de notre spécialité. Nous ne recevons pas autant d'enfants que nous nous attendrions à en voir. Nous recevons beaucoup de jeunes personnes et ce sont plutôt les hommes qui se présentent à nos consultations.
Qu'est-ce qui pourrait justement expliquer le fait que le nombre de personnes, de patients que vous recevez est en deçà de ce que vous aurez attendu?
Le nombre de patients est plus bas que ce que nous attendons parce que il faut d'abord dire que c'est une spécialité de la médecine ou bien de la chirurgie qui est assez chère à la prise en charge des patients et également parce que les patients ont des alternatives à la médecine moderne en ce qui concerne cette partie de la médecine.
Quels sont les principaux problèmes orthopédiques pour lesquels vous offrez des soins ici à Maroua?
Les principaux problèmes orthopédiques pour lesquels nous offrons des soins ici à l'hôpital Baptiste de Mesquine sont les fractures, les nouvelles et les anciennes fractures et les problèmes d'arthrose, c'est-à-dire de dégénération des articulations.
Dans quel cas spécifique est-ce que vous faites recours au plâtrage et dans quel autre cas faites-vous recours à la chirurgie?
C'est un peu difficile d'expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que l'on fait le plâtre dans tel cas et dans quel cas on fait la chirurgie. Il existe un certain nombre de critères qui font appel aussi bien à la clinique, c'est-à-dire à l'observation directe du patient, et à la radiologie, c'est-à-dire au passage par les rayons X, qui nous permet de décider à quel moment on peut se contenter de plâtrer et à quel moment la chirurgie est indispensable. et il faut très très bien connaître les pathologies et les manifestations radiologiques pour pouvoir prendre cette décision.
Je vais prendre le cas d'une fracture simple où vous optez pour un plâtrage. Prenons la fracture peut-être du fémur. Quelle est en moyenne la durée de guérison d'un patient qui a été plâtré?
On va parler de consolidation en ce qui concerne la guérison des fractures. Et elle est différente selon que l'on a affaire à un bébé ou bien à un adulte. Pour un bébé, en l'espace de 6 semaines, nous aurons déjà un début de consolidation qui sera achevé autour de 3 mois. Pour un adulte, il va falloir 6 mois à environ 1 an pour que la consolidation soit entrée dans les faits, même si après 6 mois, on peut déjà parler de consolidation terminée.
Pendant cette période de 6 mois, 1 an, il conserve son plâtre ou bien on peut déjà l'enlever?
Alors, en ce qui concerne les plâtres ne se gardent pas aussi longtemps. Après une période de 6 semaines, on peut déjà enlever un plâtre. Et après cela, la suite de la prise en charge, elle est très dépendante du membre qui a été fracturé et de la présentation générale du patient.
Vous évoquiez déjà le facteur coût élevé dans votre spécialité. Vos services, d'après vous, est-ce qu'ils sont accessibles aux citoyens moyens, étant donné qu'on est dans une région qui est extrêmement pauvre, où le pouvoir d'achat aussi est très faible? Combien coûtent en moyenne les soins que vous offrez ici? Prenons le cas d'une fracture simple.
Je vous ai dit qu'il y a une différence entre les fractures des enfants et les fractures des adultes. Lorsqu'un enfant a une fracture et qu'il faut juste lui mettre le système qu'on appelle cuff and collar, qui est le fait de mettre un bracelet autour du poignet d'un enfant et le relier à un collier autour de son cou pour maintenir son coude dans une angulation voulue. Lorsque l'on fait ce simple système pour une fracture supracondylaire de l'humérus, à ce moment-là, ça coûte moins de 15 000 francs pour un traitement complet. Mais à partir du moment où il faut faire une opération chez un adulte et que cette opération demande de mettre un implant, c'est-à-dire une plaque en acier ou bien un clou en acier avec des vis, à ce moment-là, 150 000 francs deviennent très peu pour le traitement.
Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des facteurs tels que l'alimentation, l'âge ou bien le poids même qui peuvent augmenter ou alors qui augmentent les risques d'affection du système locomoteur?
Évidemment, si on est sportif, on a moins de chances de se faire mal ou bien on a plus de chances de mieux supporter une chute. Et quand on est dénutri, les fractures viennent plus facilement. Lorsqu'il y a guérison d'une fracture ou bien lorsqu'il y a la nécessité de guérison d'une fracture, l'alimentation riche en calcium est importante pour arriver à une consolidation rapide. Donc oui, il y a des facteurs nutritionnels, mais qui ne vont pas au-delà de l'alimentation équilibrée qu'un Camerounais peut s'offrir à coût normal.
En termes de nutrition, justement, quels sont les apports nutritifs nécessaires pour la bonne santé des os?
C'est principalement le calcium et le phosphore. Ce sont des oligo-éléments que l'on trouve dans la nourriture, que l'on trouve dans la viande, que l'on trouve dans les produits laitiers et qui vont effectivement permettre de fabriquer les os.
Alors, docteur, dites-nous, c'est quoi l'ostéoporose et pourquoi est-ce que les femmes en sont plus touchées que les hommes?
L'ostéoporose, c'est une maladie qui survient lorsque l'os n'arrive plus à conserver suffisamment de calcium pour maintenir une structure suffisamment dense. La structure de l'os, elle est très complexe et elle est très très bien élaborée. Elle consiste à maintenir une densité forte lorsque cet os est utilisé de manière régulière et de donner une densité qui soit proportionnelle à la charge que l'os est en train de recevoir. Quand vous êtes sportif, vous avez un os très dense, très fort. Si vous arrêtez toute activité à cause de la maladie, vous développez une ostéoporose, c'est-à-dire que la densité de votre os est perdue. Et maintenant, pour des raisons hormonales également, chez les femmes, par exemple, on peut avoir une diminution de la densité de l'os qui vient avec l'âge après la ménopause. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'ostéoporose chez les femmes. Mais l'ostéoporose arrive également chez les hommes après l'andropause et elle est tout à fait liée aux problèmes hormonaux.
Alors, chez la femme, lorsque vous parlez de ménopause, quel est le lien scientifique qu'on peut opérer entre la ménopause et justement le fait que ces os-là perdent leur masse?
Eh bien, nous savons tous que la densité de l'os est dépendante de la quantité de calcium qui est posée dans l'os. Mais cette quantité-là, elle est dépendante de la présence de la vitamine D à l'intérieur du corps. La vitamine D elle-même, dont le fonctionnement est régulé par les hormones et qui donc sera gênée lorsqu'on a une femme après la ménopause.
Est-ce qu'il vous arrive ici dans votre hôpital de recevoir justement des femmes qui ont ces problèmes d'ostéoporose?
Très rarement. L'ostéoporose est également liée à l'exposition au soleil et joue un plus grand rôle dans les pays qui sont plus pauvres en soleil que chez nous. Chez nous, nous avons du soleil toute l'année, même en saison des pluies. Et ce soleil-là est déjà suffisant pour nous préserver de beaucoup de maladies, y compris ou bien en particulier l'ostéoporose. On trouve des cas d'ostéoporose qui sont liés à l'inactivité. Ça veut dire une vieille maman qui a déjà des rhumatismes très importants et qui ne va plus au soleil parce qu'elle ne se lève plus, va développer de l'ostéoporose. Une personne qui a une maladie grave, qui n'utilise plus son membre inférieur, peut développer une ostéoporose d'inactivité dans ce membre inférieur-là. C'est ce que nous observons.
Alors, lorsqu'une femme, prenons le cas d'une femme qui a une fracture justement due à l'ostéoporose, est-ce que c'est guérissable?
Les fractures même dues à l'ostéoporose sont guérissables. Il y a des principes de management de ces fractures qui sont légèrement différents de ceux des os en meilleure santé, mais c'est essentiellement guérissable.
Alors, tout à l'heure, vous abordez déjà la question, on va y revenir maintenant. Il y a des personnes, justement, qui, en cas de fracture, préfèrent se rendre chez des masseurs traditionnels plutôt qu'à l'hôpital. D'abord, qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, justifier cela? Et ensuite, quel crédit accordez-vous à ces masseurs, entre guillemets, traditionnels? Est-ce que les personnes qui vont chez ces masseurs-là courent des risques?
La médecine moderne, et en particulier l'orthopédie, sont des phénomène tout à fait nouveau au Cameroun. Les populations connaissent beaucoup mieux la médecine traditionnelle que la médecine moderne et c'est d'autant plus valable pour l'orthopédie et la chirurgie traumatologique. Donc ce sont des spécialités qui sont nouvelles, qui sont mal connues de la population et qui en plus coûtent cher. Donc on comprend très bien que la population aille d'abord chez le tradipraticien. Quant à savoir jusqu'à quel point le tradipraticien fait son travail avec succès, eh bien, il existe un certain nombre de pathologies osseuses qui peuvent être prises en charge avec succès par le tradipraticien, mais pas toutes. Le problème survient à partir du moment où le tradipraticien exerce son art sans avoir le support d'une radio pour savoir faire le tri entre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit absolument pas toucher.
En résumé, ceux qui y vont s'exposent à des risques certains.
Tout à fait.
Alors, quelle est la ligne de démarcation entre le champ de compétence de l'orthopédie et celui de la kinésithérapie?
Eh bien, l'orthopédie donne les directives à la kinésithérapie. Lorsque je vois un membre qui est déformé, je développe un plan de traitement de ce membre-là. Et ce plan de traitement peut inclure des manœuvres chirurgicales, c'est-à-dire en ouvrant, en coupant et en suturant les tissus, en mettant des implants. Et ça peut inclure des manœuvres de kinésithérapie qui consistent à manipuler, mobiliser le membre, l'articulation et à lutter contre les contractures, à lutter contre les crampes et autres problèmes musculaires. Donc la kinésithérapie fait partie des nombreuses armes que l'orthopédiste a à sa disposition pour lutter contre les maladies osseuses.
Alors ça veut dire quoi? Lorsque un chirurgien orthopédiste a fini avec un patient et qu'on est dans la phase de rééducation, c'est là où le kinésithérapeute intervient ou bien c'est déjà même pendant la prise en charge du patient?
Alors lorsque la prise en charge consiste à faire une opération puis à faire de la rééducation, le temps d'opération est le plus court. Je vous ai parlé tout à l'heure de 6 mois de consolidation. Le temps d'opération, c'est quelques heures. Donc la phase de la kinésithérapie intervient tout de suite après l'opération. Voilà un patient qui a été opéré, il a le membre qui est gonflé à cause de l'inflammation qui est la conséquence de son opération. La kinésithérapie va venir déjà dégonfler ce membre. Après ça, il a besoin de ne pas perdre la force de ses muscles pendant la période où il aura encore les douleurs post-opératoires, la kinésithérapie intervient pour maintenir la force de ses muscles. Après cela, il aura besoin de réapprendre à utiliser les muscles correctement, par exemple pour marcher. À ce moment-là, la kinésithérapie va intervenir de nouveau pour permettre au patient de marcher. Et la kinésithérapie accompagne le patient très longtemps jusqu'à la guérison.
Alors dites-nous, pour la prise en charge complète et efficace d'une fracture, est-ce que l'intervention d'un kinésithérapeute est absolument nécessaire?
Elle est très, très souvent nécessaire, mais pas absolument.
C'est-à-dire, c'est au chirurgien de déterminer si le patient a besoin de se faire accompagner par un kinésithérapeute.
Tout à fait. En ce qui concerne les adultes ont très souvent besoin d'un kinésithérapeute. En ce qui concerne les enfants, plus ils sont petits et moins ils ont besoin de kinésithérapie parce qu'avec les enfants, ça va tout seul.
Alors, docteur, quelles sont les possibles complications post-opératoires d'une chirurgie orthopédique?
Les possibles complications post-opératoires d'une chirurgie orthopédique sont d'abord celles de la chirurgie elle-même. Il y a la douleur, il y a la possibilité d'une infection, il y a la possibilité d'une hémorragie avec le choc, avec la mort. Il y a la déformation, il y a le fait qu'il y ait manque de succès de l'opération avec ce que l'on appelle la non-union. Ça veut dire que l'os ne consolide pas, mais il reste non consolidé. Il y a la perte du membre. Il y a les complications neurologiques, ça veut dire qu'on peut blesser un nerf et avoir des problèmes avec la sensibilité ou bien avec la motricité, la possibilité de mouvoir un membre. Il y a des blessures permanentes et il y a des lésions permanentes nerveuses à type de douleur qui restent après pendant des années ou bien des décennies.
C'est vrai que tout cela fait peur. Ça n'encourage pas forcément un patient à entrer dans un bloc opératoire. Est-ce que, à votre niveau, avant d'admettre un patient au bloc, il y a des dispositions qui sont déjà prises pour éviter qu'il y ait des séquelles à suivre après?
Eh bien, le fait de connaître ces complications, c'est déjà la meilleure prévention. Lorsque l'on sait qu'en posant tel ou tel geste, on pourrait avoir telle ou telle complication, on a plus de facilité à éviter ces complications-là que lorsque l'on ne sait pas où on va. C'est vraiment tout l'intérêt de la médecine moderne. C'est tout l'intérêt de la prise en charge en utilisant les radiographies. Si je n'ai pas fait la radiographie d'un membre et que je ne sais pas comment est la fracture, est-ce qu'il n'y a pas des parties piquantes qui vont pouvoir aller blesser les tissus environnants, à ce moment-là, j'ai tout le mal du monde à intervenir dessus. Imaginez une personne qui se met à masser une fracture de côte et la côte s'en va percer le poumon de la personne que l'on masse. On a cru bien faire et à la fin on fait mal parce que non seulement on ne savait pas ce qui se passait avec la fracture sans radio, mais en plus on n'avait pas en tête les complications possibles. La médecine moderne, c'est d'abord apprendre ces complications avant même de commencer à interagir avec le patient. Lorsqu'on cite les complications d'une procédure ou bien d'une maladie, c'est parce qu'on doit avoir l'honnêteté de dire ce qui est dans l'ordre du possible. Ça ne veut pas dire que ces complications vont arriver chez la personne et ça ne veut pas dire que toutes les complications vont arriver en même temps. Et nous avons l'habitude de dire que le véritable travail du chirurgien, ce n'est pas simplement d'opérer, mais c'est surtout de gérer les suites et les complications de son opération. Et c'est là vraiment que notre travail se situe. Pouvoir reconnaître les complications, pouvoir les gérer, pouvoir redresser la barre à tout moment. C'est cela qui fait de notre métier un art.
Dites-nous, docteur, quels sont les différents appareils ou supports orthopédiques couramment utilisés et dans quel cas est-ce que vous les prescrivez souvent?
Les appareils orthopédiques, ce sont d'abord les orthèses. Les orthèses sont des assemblages de tissus et de métaux que l'on met pour supporter des articulations et qui permettent d'immobiliser les articulations. Ce sont les attelles qui font à peu près la même chose, mais sans envelopper complètement le membre ou bien la partie de membre conservée. C'est évidemment le plâtre qui permet d'immobiliser de manière tout à fait sérieuse un membre ou bien une articulation en attendant la consolidation et beaucoup d'autres possibilités que nous avons d'aider les patients.
Est-ce qu'il vous arrive souvent aussi de prescrire des ceintures lombaires ou alors ce n'est pas de votre domaine de compétence?
La ceinture lombaire est également de mon domaine de compétence selon la présentation que le patient fait. La kinésithérapie s'occupe également de ce problème de ceinture lombaire parce qu'elle travaille avec les patients et se rend compte à quel moment ils en ont besoin.
Justement, dans quel cas est-ce qu'un patient peut avoir besoin d'une ceinture de lombaire? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, ça devient un commerce lucratif. Beaucoup de gens se lancent dans ce commerce-là et beaucoup aussi en achètent, parfois sans forcément savoir si ce sont des bonnes ou de mauvaises ceintures qui pourraient à la longue accentuer leur mal. Dans quel cas prescrire le port d'une ceinture lombaire?
La ceinture lombaire s'impose à partir du moment où les douleurs d'un patient sont tellement importantes qu'il a besoin d'avoir un support pour ses muscles en permanence. Elle n'est cependant pas conseillée pour une longue période parce que l'utilisation systématique de la ceinture lombaire pendant un temps prolongé entraîne une atrophie des muscles que cette ceinture lombaire est venue soutenir. Ces muscles ne seront plus utilisés, ils vont donc s'atrophier et à ce moment-là, le patient devient dépendant de sa ceinture lombaire. En général, on donne la ceinture lombaire pour une période de temps très restreinte après laquelle il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante peut être le retour à un état sans ceinture lombaire ou bien ça peut être la chirurgie.
J'espère que nous avons très bien compris ce message qui me semble très important. Alors, docteur, pour sortir de notre émission, dites-nous, est-ce que vous avez des conseils pratiques à prodiguer à nos auditeurs pour les aider justement à prévenir ou éviter non seulement les fractures, mais tout problème lié à l'appareil locomoteur?
Nous parlons de locomotion. Lorsque nous parlons de locomotion, un exemple très pratique me vient à l'esprit. L'utilisation de nos vélos, motos et voitures. Et je parlerai en particulier des motos parce qu'il y a énormément de motos qui circulent dans notre région. Lorsque un propriétaire de moto a un problème avec sa moto, il l'amène chez un spécialiste. C'est le spécialiste qui lui dit quel est le problème que sa moto a et qui lui dit quel est le traitement qu'il faut appliquer pour régler ce problème. Notre corps nous est infiniment plus précieux qu'une moto. Voyons le spécialiste pour qu'ils nous disent ce qui se passe avec notre corps, qu'ils nous disent quelles sont les possibilités de traitement. Ici, à l'hôpital de Mesquine, nous avons la possibilité d'aider véritablement les patients. Lorsqu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour une opération, lorsque les gens ont seulement une partie de l'argent qui est nécessaire pour une opération, l'hôpital leur vient en aide. On ne laisse repartir aucune personne pour problème de manque d'argent. L'hôpital leur vient en aide en leur accordant des crédits. Depuis que je suis arrivé ici, ça fera bientôt 2 ans, nous n'avons pas facturé un seul implant à un patient. Les implants, nous nous adressons aux donateurs, aux sponsors étrangers pour nous en procurer et ça nous permet de baisser les coûts de la chirurgie. Lorsqu'il y a un problème avec le corps est infiniment plus précieux que notre voiture, notre moto, notre vélo. Allons voir l'expert pour savoir ce qui se passe avec notre corps et pour trouver la solution adéquate.
Docteur Miko, merci d'avoir répondu à cette invitation de Radio Serré.
Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. La dénomination de l'hôpital a changé. Désormais, c'est un hôpital de la CBC, Hôpital Baptiste de Mesquine, qui veut être dans la continuité de ce que CEMAO a fait, mais en donnant encore plus de possibilités aux patients de venir trouver la santé chez nous. Comme par exemple avec cette nouvelle discipline de l'orthopédie, de la chirurgie traumatologique que nous vous proposons ici. Et merci pour vos questions qui étaient très pertinentes.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous dans laquelle nous avons parlé de l'accès aux soins de santé orthopédique et traumatologique avec le docteur Philippe Miko, chirurgien traumatologue orthopédiste, par ailleurs médecin-chef de l'hôpital Baptiste de Mesquine, anciennement appelé hôpital CEMAO, à qui nous disons une fois de plus merci de nous avoir prêté son expertise pour vous entretenir aujourd'hui sur sa spécialité. Ce qu'il faudrait déjà retenir, c'est que nous avons des spécialistes qualifiés disponibles dans nos formations sanitaires, à l'instar de notre invité du jour, qui peuvent nous garantir des soins de qualité pour tous nos problèmes traumatologiques et orthopédiques. Le recours aux masseurs et guérisseurs traditionnels n'est pas forcément la bonne solution, car elle peut présenter des dangers pour notre santé. Parfois, les procédés et techniques utilisés par ces masseurs traditionnels peuvent aggraver notre situation de départ. En cas de fracture, de mal de dos, d'arthrose, d'ostéoporose ou de tout autre traumatisme du système locomoteur, évitez de vous rendre nécessairement chez un masseur traditionnel. car vous pourrez en ressortir avec des séquelles irréversibles. Allez plutôt consulter un traumatologue orthopédiste dont les méthodes scientifiques de travail vont vous garantir une guérison optimale. Il faut aussi retenir que le risque de survenance des maladies osseuses augmente avec l'âge. Pour maîtriser ce risque, il faut avoir une alimentation riche en calcium et en vitamine D que l'on retrouve dans la plupart des fruits, légumes et produits laitiers que nous avons ici chez nous. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Nicole Massaï à la réalisation, Marchino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Tenons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.